Débat sur le projet de loi sur la fin de vie se poursuivent à l'Assemblée nationale.
Et oui, et depuis une semaine, la proposition de loi sur l'aide à mourir, autrement dit le suicide assisté et l'euthanasie, n'ayons pas peur des mots, est débattue par les députés. Et ces derniers, en fin de semaine, ont adopté la création d'un droit à l'aide à mourir et d'auto-administration de la substance létale. De nombreux amendements ont été rejetés, permettant au professeur Philippe Juvin, médecin anesthésiste, réanimateur et député, d'affirmer mais qu'il va être plus facile d'obtenir l'euthanasie que d'avoir une consultation contre la douleur. Et nous allons voir pourquoi ce matin avec le docteur Jean Fontan, médecin en soins palliatifs à Toulouse. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Et merci d'être avec nous ce matin. Alors le patient, dit ce texte, doit être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, cette dernière provoquant une souffrance physique ou psychologique, réfractaire au traitement ou insupportable. Ce sont les termes mêmes d'une des conditions d'accès à l'aide à mourir et j'aimerais que nous nous arrêtions d'abord sur cette notion de pronostic vital en phase avancée ou terminale. Comment faites-vous dans l'exercice de la médecine en soins palliatifs pour déterminer si le pronostic vital est engagé ou pas et dans quel délai?
Alors, les termes de la proposition de loi ne se mesurent pas. Et d'ailleurs, l'HAS a rendu un rapport assez récemment voilà, qui précise objectivement qu'on ne peut pas préciser et que ça ne veut rien dire scientifiquement une phase avancée ou terminale.
Donc, il n'y a pas de consensus médical sur cette définition, finalement.
Aucun consensus. Et je dirais même que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que chaque personne est unique et on ne maîtrise pas la vie de nos patients. On est là pour les accompagner. Et donc, pour moi, c'est vraiment un symptôme d'une proposition de loi qui est déconnectée du réel, écrite par en fait des idéologues qui ne connaissent ni n'écoutent le terrain.
Ah oui.
Et je dirais juste, il y a simplement en toute fin de vie. En fait, je dirais qu'on est un peu comme Météo France, on est plutôt bon pour pronostiquer à 1 ou 2 jours, mais en fait, dès que ça dépasse quelques jours, on se trompe, et toutes les études montrent qu'on se trompe, et
Ouais.
principalement les médecins d'ailleurs.
Oui, c'est pas une science exacte, hein.
Non.
Ouais. Deuxième aspect de l'article, la personne doit présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement ou qui est insupportable. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes confronté, toujours en soins palliatifs, à ces situations, docteur Jean Fontan?
Alors, nous, on ne s'arrête pas à la souffrance, enfin, on ne s'arrête pas à la souffrance physique, souffrance psychologique. On parle souvent de souffrance globale. La souffrance, elle a une part de physique, une part aussi psychique, bien sûr, mais puis également ce que nous, on appelle existentiel ou spirituel, le fait d'avoir des angoisses de mort très fortes, le fait d'avoir une perte de sens, par exemple. Et puis aussi, il y a une part aussi dans la souffrance qui est sociale vis-à-vis de l'entourage, la culpabilisation de le faire souffrir, la souffrance aussi d'être mis de côté, d'être abandonné. Donc, c'est compliqué, la souffrance, et donc, c'est vraiment par l'interdisciplinarité qu'on va prendre soin de nos patients, où chacun a un regard différent. La psychologue n'a pas le même regard que le mien, ni l'aide-soignante qui voit le patient pendant la toilette et donc qui peut constater des douleurs. Et puis ça peut être aussi un moment de confidence. Donc voilà, on n'a pas de baguette magique. On fait une évaluation d'équipe et puis on propose une prise en soin qu'on réévalue régulièrement et faut accepter vraiment que ça prenne du temps. On ne soulage pas les patients en quelques jours.
Donc
Et
ça signifie...
notamment sur la souffrance psychologique,
Voilà,
elle
c'est
est
ça.
très longue, elle est beaucoup plus longue à soulager que la souffrance physique, qui est finalement relativement simple.
Donc ça veut dire, à contrario, ce que vous me dites, c'est que finalement, autant la souffrance physique que psychologique peuvent être soulagées.
Oui, sauf que la souffrance psychologique, notamment les grandes dépressions, bah, suite à un diagnostic de la maladie ou d'une récidive ou qu'il faut reprendre la chimio, en fait, c'est normal, hein, d'avoir enfin, on retrouve ça de façon, c'est assez habituel, hein, de retrouver des gens qui font des profondes dépressions suite à ces annonces-là. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et par exemple, si on met en place un traitement antidépresseur, on ne peut pas évaluer son efficacité avant 1 mois. Donc, vous vous rendez bien compte que le pronostic, le délai de réflexion de 48 heures qui est évoqué par la proposition de loi, c'est complètement déconnecté du terrain.
Oui, parce que vous dites, donc pour une souffrance psychologique, il faut attendre 1 mois de traitement, et puis pour une souffrance physique qui est insupportable, là, le délai de 48 heures, il est aussi inadapté.
Il est inadapté parce que si je vais trop vite, le patient, il aura potentiellement des effets secondaires parce qu'on va vouloir aller monter un peu trop vite. Donc il va être somnolent, confus. Donc non, il faut y aller doucement.
Il faut y aller
Enfin.
doucement. Et puis, un délai d'ailleurs qui, dit le projet de loi, peut être encore raccourci à la demande de la personne.
Oui, ça raccourcit à la demande de la personne ou je crois aussi à l'évaluation du médecin. Donc ça aussi que je trouve hyper inquiétant et qui devrait vraiment inquiéter tout le monde, c'est que le médecin a un pouvoir incroyable là-dessus.
Oui, parce que vous avez parlé dans l'exercice des soins palliatifs du fait que vous aviez une interdisciplinarité. Et c'est vrai que de nombreuses dispositions sont débattues à l'Assemblée nationale. Et l'une d'elles prévoit que l'accord du seul médecin choisi par le patient suffira. Et vous avez recours à la collégialité. Qu'est-ce que cette disposition de collégialité apporte précisément? Et à contrario, quels sont les risques de ne pas la conserver?
Moi, je dirais qu'on est bien plus intelligent à plusieurs. On fait pas le même métier, mais on a vraiment le même objectif que de prendre en soin dans toutes ces dimensions de patients et puis également la famille. On n'en a pas parlé.
Oui.
Et en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne voit pas la même chose. Chacun de nos, enfin chacun a une sensibilité, chacun par son métier voit les choses différemment. Enfin pour reprendre l'exemple de la toilette, moi parfois je vois des patients qui me paraissent pas du tout douloureux, et puis en fait une aide-soignante va me dire que la toilette était extrêmement difficile, pas forcément parce qu'il avait mal, mais il a pleuré, je sais pas, il a pleuré parce que ça lui rappelait quelque chose, et donc voilà on C'est,
Vous
ça
êtes
nous permet
attentif à
de,
toute souffrance.
voilà, d'être attentif, d'être très attentif. Et après, sur la collégialité, je trouve qu'elle est bien faite lorsqu'on examine une demande de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, lorsque le patient est en situation de fin de vie et qu'il demande la sédation profonde et continue,
Pour
il nous est
supporter la
demandé,
souffrance, c'est ça?
oui, c'est ça, et il nous est demandé que soit présent un médecin extérieur au service et pour éviter en fait toute pression hiérarchique. Et permettre une totale liberté en fait de chacun des membres, enfin de chacun des soignants. Et c'est ça que je trouve inquiétant dans cette proposition de loi, c'est que ça dépend que d'une personne,
Qui n'est pas extérieur
que
alors? Qui ne serait pas
oui,
extérieur?
je crois qu'il peut demander une collégialité, mais c'est pas du tout obligatoire.
Oui, puis elle est consultative, elle n'est pas
Oui,
décisionnaire,
c'est ça,
la
les comptes.
collégialité.
Oui.
Oui. Alors, il y a un autre élément de cette proposition de loi, docteur Jean Fontan, c'est qu'il faut être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les faits si vos patients sont réellement libres quand ils souffrent?
Alors ça c'est une grande question. Je ne suis pas philosophe, mais quand même ce qu'on peut voir, c'est que déjà c'est que l'extrême majorité des demandes à mourir que je reçois, elles viennent de l'entourage. Donc ça, au niveau de la liberté, ça questionne quand même, hein. Et puis il y a quand même des phrases qu'on entend de plus en plus dans les reportages, dans les médias, c'est que les malades coûtent très cher. On peut voir aussi que beaucoup de mutuelles se sont engouffrées dans le débat. Moi, par exemple, notre mutuelle hospitalière, ça m'a vraiment choqué. Ils nous ont envoyé un fascicule sur un débat, enfin centré sur les débats sur l'euthanasie. Il n'y avait que des articles favorables, mais que des articles
Oui, donc
favorables.
c'est plus un débat là.
Ouais, donc c'est plus un débat. Après, on peut parler aussi qu'on voit qu'il n'y a pas de clause de conscience institutionnelle, donc c'est-à-dire que tout établissement devra faire des aides à mourir. Quand on voit que il n'y a pas de clause de conscience pour les pharmaciens, elle est où la liberté? Quand on voit qu'il y a un délit d'entrave à l'aide à mourir, mais pas pour incitation à l'aide à mourir, elle est où la liberté? Donc la liberté, vraiment, c'est pour moi, on ne la voit pas du tout. Et puis une personne qui souffre. Enfin, sa liberté est très altérée par cette souffrance, et il imagine que la souffrance, qu'il n'y a que la mort qui peut arrêter cette souffrance. Et donc nous, lorsqu'une personne demande à mourir, c'est alerte rouge, c'est branle-bas de combat. Il y a une personne qui souffre de façon très intense et il faut l'aider. Donc mon inquiétude, c'est qu'on n'ait plus la possibilité de faire notre métier, qu'on n'ait plus le temps pour aider nos patients
Oui,
qui demandent à mourir et qui sont parfois très très insistants quand ils le demandent, mais cette demande, elle disparaît. En fait, dans la plupart du temps, elle disparaît après avoir bien pris en charge le patient et également la famille.
et le fait de d'avoir cette possibilité dans le même établissement d'offrir, entre guillemets, les soins palliatifs et une aide active à mourir, une euthanasie ou un suicide assisté, dans quelle position ça vous met, vous?
Ben moi, ça me met en, je vous dirais que ça me met en colère parce que ça fait des années et des années qu'on dit qu'il faut développer les soins palliatifs. Si on prend l'exemple de Toulouse, il y a 20 lits dans les unités de soins palliatifs. Et je dis Toulouse, hein, mais ça devrait être toute la Haute-Garonne. Même si on regarde dans la région, il y a plusieurs départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs.
Mais j'en profite pour vous poser une autre question, puisque je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, docteur Jean Fonton, à propos de la famille. Vous disiez qu'il y avait une grande pression donnée par les familles sur la demande d'euthanasie de leurs proches, patients. Et vous avez aussi invoqué le fait que la famille elle-même, quand elle voit son proche, le patient soulagé de ses douleurs, finalement ne demande plus aussi l'euthanasie. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point?
Oui, en fait, c'est accompagner quelqu'un de très malade, c'est épuisant. Et puis, on est souvent confronté à des sentiments d'impuissance lorsque la personne est douloureuse à domicile et qu'on peut pas faire grand-chose ou quand il est plein d'angoisse. Et donc, c'est souvent dans cet état d'épuisement et d'impuissance qu'on a des demandes. Qu'on a des demandes d'euthanasie de la famille. Et donc, nous, on organise des hospitalisations de répit. On passe beaucoup de temps avec la famille. On prend soin, bien sûr, des symptômes. Et souvent, cette demande des familles, elle disparaît. Et ils sont souvent très reconnaissants bah, une fois qu'on a fait notre travail.
Oui, donc ce qui est important dans les soins palliatifs, c'est non seulement prendre soin du patient, mais aussi de tout son entourage et sa famille. Merci beaucoup, docteur Jean
Et
Fontan.
oui,
Je rappelle que vous êtes.
je dirais qu'on fait presque un boulot de santé publique, hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Je rappelle que vous êtes
Pour
médecin
permettre
en.
aux gens de faire leur deuil plus facilement. Mais j'ai bah, notamment une patiente qui était vraiment en forte demande à mourir. Et bah, son mari, il revient tous les 6 mois dans le service. Ça fait quand même
Pour vous
plus de 2 ans
remercier.
qu'elle est morte. Et on avait même organisé leur mariage 10 jours avant sa
Magnifique.
mort.
Voilà un beau témoignage. Merci beaucoup, docteur Jean Fontan. Il est temps de nous quitter. Je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs à Toulouse et vous avez présenté ce matin les risques inhérents au projet de loi sur l'aide à mourir actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.